Décryptage.
Loïc Bussière.
C'est un procès pas comme les autres, un procès pour l'histoire, dit-on, mais dont rien n'assure qu'il viendra clore, y compris au plan juridique, le chapitre des attentats de janvier 2015, ceux de Charlie, de Montrouge, de l'Hypercacher, point de départ d'autres attaques terroristes en France. Le Bataclan, Nice ou encore Magnanville suivront. 14 personnes jugées depuis ce matin à Paris, de l'autre côté du box, fait rarissime dans une affaire d'attentats djihadistes. Des caméras, le tout sans les acteurs principaux des équipées sanglantes qui ont fait 17 morts il y a 5 ans. Les frères Kouachi, en l'occurrence, et Amélie Koulibaly, eux-mêmes abattus par les forces de l'ordre. Les prévenus qui défileront jusqu'au 10 novembre sont accusés de leur avoir fourni une aide logistique, des petites mains, selon leurs avocats, la cheville ouvrière d'un terrorisme rampant objet d'autres. Comment, dès lors, aborder ces 2 mois de procès? Peut-on aller au-delà du seul symbole, le terrorisme à la barre pour l'histoire? C'est le sujet de Décryptage ce soir. Et pour en parler avec nous en studio, Marc Ecker, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la recherche, spécialiste très précisément du terrorisme à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, également rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. En ligne également avec nous Thierry Lévesque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant et vous couvrez précisément le procès de ces attentats de janvier 2015 pour le site Les Jours. Vous êtes également co-auteur de « Et soudain, il ne riait plus », récit précisément des 3 jours de janvier qui nous intéresse aujourd'hui. Thierry Lévesque, c'est vers vous que je vais me tourner tout d'abord, puisque vous avez suivi à cette première journée de débat à la cour d'assises spéciale dans le nord de Paris. Quel est le sentiment justement qui domine ce soir pour vous, après cette première journée de débat?
Je crois qu'on est toujours dans un procès assez paradoxal, puisqu'il est, comme vous l'avez dit, filmé pour les archives, pour l'histoire, ce qui est très rare. C'est seulement le 12e procès de l'histoire judiciaire française filmé ainsi. Et donc, c'est des événements considérés comme historiques, mais dans le box, il n'y a que des comparses supposés, puisque l'accusation devra encore démontrer qu'ils ont participé aux faits. Et donc, on risque, si vous voulez, de rester un peu sur sa faim quant à l'explication de cet événement, les commanditaires, les organisations qu'il y a derrière, puisqu'il y a Al-Qaïda et l'État islamique. On sait que et l'une et l'autre ont revendiqué les attaques de l'Hypercacher et de Charlie. Et donc voilà, donc il y a une audience paradoxale. Et je pense qu'en plus, il va y avoir un autre procès dans le procès, qui est que les survivants du massacre de Charlie, notamment Rhys, le patron du titre, et Richard Malka, l'avocat historique de Charlie, veulent faire un autre procès, celui des anti-Charlie, celui de ce qu'ils appellent les complices intellectuels des tueurs, ceux qui, selon eux, ont sapé un petit peu leur liberté d'expression en les accusant d'islamophobie, voire de racisme.
Marc Ecker, je vous donne la parole. Justement, ce que vous retenez, c'est un peu prématuré comme expression, mais de cette première journée de procès, c'est sa dimension historique avant tout?
C'est ce qui est mis en avant, en tout cas, par les observateurs. Et c'est vrai que la dimension filmée du procès fait qu'il y a effectivement cette dimension historique et mémorielle, on pourrait dire. Mais le vrai moment historique, ça a été l'attaque de 2015, qui a ouvert une période de terrorisme dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Et moi, j'aimerais insister là-dessus. C'est-à-dire que là, on rouvre un dossier judiciaire. La justice en France est lente, mais on peut le comprendre au vu des volumes qu'il y a à traiter dans ce procès, dans cette affaire. Pour le 13 novembre, ce sera encore plus volumineux. Il faut voir qu'il y a déjà eu un temps médiatique en 2015, un temps parlementaire, puisqu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui avait rendu ses conclusions en juillet 2016, avec déjà un rapport très volumineux, et puis des annexes à ce rapport encore plus volumineuses, plusieurs centaines de pages, où on avait déjà de nombreux témoignages, des témoignages de victimes, mais également des témoignages de personnes qui avaient géré la crise, des policiers, des membres des services de renseignement, des pompiers, des médecins, etc. Et ce rapport avait abouti à un certain nombre de conclusions, mais la logique était différente. Il s'agissait aussi d'analyser d'éventuelles failles pour combler l'arsenal législatif permettant de lutter contre le terrorisme. Là, on est donc dans le temps de la justice. Les victimes vont à nouveau pouvoir s'exprimer. Il va y avoir des conclusions judiciaires ce coup-ci, avec peut-être des réponses à certaines questions. Et effectivement, le point des commanditaires n'était pas véritablement éclairé par la commission d'enquête parlementaire, mais je suis pas sûr qu'on en apprenne beaucoup plus dans ce temps judiciaire. Donc oui, c'est important d'avoir ce moment-là. Oui, il y aura ensuite des traces et des archives visuelles de ce moment, mais encore une fois, ça ne clôt pas le cycle du terrorisme, et ça ne clôt pas non plus le cycle judiciaire, puisque derrière, le procès des attentats du 13 novembre 2015 va arriver.
Mais ça ne clôt pas l'affaire précisément de ces attentats de janvier 2015. Thierry Lévesque, je vous redonne la parole. Ce que disait Marc Ecker à l'instant, c'est que c'est surtout la dimension symbolique, la valeur de symbole de ce procès qui prévaut aujourd'hui. Est-ce que vous souscrivez à ces propos ?
Oui, alors c'est évident que cette affaire a marqué une rupture par rapport aux terroristes des années 80-90. Ça avait été un peu annoncé, ce tournant historique, avec l'affaire Merah. Mais dans ce dossier Charlie Hypercacher, pour la première fois, la France est frappée par un terrorisme mondialisé, puisque d'une part, c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc basée au Yémen, qui est le commanditaire des frères Kouachi, et d'autre part, on a l'État islamique qui, à ce moment-là, fait son apparition en Syrie, une sorte d'organisation concurrente. Et puis, il y a la technique, la méthode utilisée, les cibles, la sauvagerie, on va dire, de ces attaques, qui tout de même contraste avec ce qui avait pu être le cas dans les années 90. Par exemple, les attaques du GIA algérien avaient une cible politique bien précise qui visait à obtenir le renversement du régime algérien. Là, on est dans quelque chose à la limite de beaucoup plus mystique, un peu presque délirant, avec cette cible de dessinateur d'un journal qui, à l'époque, il faut s'en souvenir, était quasiment en faillite. Donc on est rentré à la fois dans une autre dimension psychologique, opérationnelle, et puis au plan de l'organisation, on est véritablement maintenant dans un terrorisme mondialisé, et en plus avec deux organisations concurrentes, qui bizarrement d'ailleurs ont convergé dans ces événements de janvier 2015. C'est une des anomalies, un peu, ou une bizarrerie de cette affaire.
Marc Ecker, pardon, à défaut de clore, comme vous le disiez, effectivement, ce dossier précis des attentats de janvier 2015, est-ce que ces deux mois de débat à la Cour d'assises spéciale de Paris vont permettre de mieux comprendre, si tant est qu'il est possible de le faire, justement, ce qui s'est passé il y a 5 ans?
Les procès sont toujours riches, on apprend quand même toujours des choses. Là, il y a une spécificité qui est que, comme je l'ai dit, il y avait eu cette commission d'enquête parlementaire qui avait quand même déjà beaucoup travaillé. Et il y a déjà énormément d'éléments qui étaient ressortis de cette commission d'enquête parlementaire, notamment, comme l'évoquait monsieur au téléphone, sur cette connexion un peu étrange entre Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Daesh. En fait, la commission d'enquête parlementaire levait déjà pas mal le voile sur ce point-là, en montrant que Amédi Coulibaly et les frères Kouachi se connaissaient de longue date. Shérif Kouachi et Amédi Coulibaly s'étaient rencontrés en prison, avaient été radicalisés par Jamel Begal, et les deux avaient suivi une évolution parallèle, mais ils étaient toujours en contact avec ce voyage d'un des frères Kouachi, encore un peu un mystère pour savoir si c'était Saïd ou Shérif qui était au Yémen, en contact avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique. De l'autre côté, Coulibaly, lui, au moment où il y a eu ce voyage au Yémen, il était déjà en prison, poursuivi dans une affaire qui était une tentative de faire sortir un artificier du GIA des attentats des années 90 de prison. Et donc Coulibaly, lui, n'avait pas pu voyager à l'étranger à ce moment-là. Il a été libéré en 2014. Il était toujours en contact avec les frères Kouachi, et donc ils se sont coordonnés pour commettre cette attaque. Entre-temps, Daesh était apparu comme une organisation importante et centrale sur la scène djihadiste internationale, et donc Amédi Coulibaly a prêté allégeance, dans une vidéo bien connue, à Aboubakar al-Baghdadi. Donc tout ça a déjà été bien analysé. J'aimerais revenir sur quelques petits points. Le premier, c'est que le rôle de la justice n'est pas avant tout symbolique. Le rôle de la justice, c'est quand même de déterminer si des personnes poursuivies sont coupables ou pas. Après, l'aspect symbolique, il va venir beaucoup plus de ce qui se passe autour du procès. Donc des commentaires qu'il va pouvoir y avoir, des émissions qui vont être organisées comme celle d'aujourd'hui pour discuter de l'impact de cette affaire de janvier 2015 et du procès. de l'instrumentalisation éventuelle qui va pouvoir être faite par différents acteurs, de la dimension politique qui va pouvoir être apportée à ce procès. Mais le temps de la justice en tant que telle, c'est quand même le rôle de la justice, c'est avant tout de dire si des personnes qui sont poursuivies étaient effectivement impliquées ou pas, et à quel degré dans une affaire, et d'infliger une peine correspondant à la gravité de ce qui a été fait ou pas. Ça, c'est la première chose.
Donc, établir une échelle de responsabilité. Voilà.
Exactement. Et là, on sait bien que dans ce cas-là, les principaux responsables ne seront pas à la barre. Les terroristes eux-mêmes sont morts. Et puis, d'autres protagonistes importants sont en fuite et présumés morts pour certains d'entre eux.
Thierry Lévesque, une réaction justement par rapport à ce distinguo que fait Marc Ecker entre le temps judiciaire et l'émotion, le symbole que j'évoquais à l'instant ?
Oui, mais je crois que monsieur a raison, je le disais au début, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est limité par rapport à cette affaire, qui est celle des 11 accusés présents, où il va falloir démontrer finalement que les tâches logistiques qu'on leur impute, fourniture d'armes, achats divers, ont été effectuées en rapport avec le projet terroriste. C'est loin d'être évident, et d'ailleurs, il n'est pas du tout sûr qu'à la fin, il soit retenu dans cette accusation. Alors, effectivement, ça paraît un peu secondaire et trivial par rapport à l'enjeu plus symbolique qui est celui de la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait 100 ou 120 journalistes, dont beaucoup d'étrangers au procès. Et ils viennent bien sûr pour ça. Jusqu'où peut-on aller dans la caricature des religions, etc. Est-ce que Charlie a été bien traité? Est-ce que on a tort de les accuser d'islamophobie? Est-ce qu'ils sont en droit d'eux, etc.
Non, cela dit, je me permets de vous couper un instant, Thierry Lévesque, parce que ce n'est pas uniquement le procès des attentats de Charlie. On rappelle qu'il y a également eu Montrouge, la mort de la policière Clarissa Jean-Philippe, et également la prise d'otage qui s'est terminée de la manière dont on sait, faite par Mehdi Koulibaly dans la Liberté Cher de la porte de Vincennes.
Et d'ailleurs, les victimes de ces attentats-là vont essayer aussi de faire valoir que, justement, ils ont été ciblés, tout autant que les dessinateurs de Charlie, parce qu'à vrai dire, ils sont un peu au deuxième plan médiatiquement. Les médias, et notamment au plan international, mais même en France, parlent quand même essentiellement de l'attaque de Charlie qui a été... c'est elle qui a frappé les esprits. Donc il y a une bataille, entre guillemets, entre victimes aussi dans ce procès. C'est ce qui en fait un peu la complexité, le côté tortueux, par rapport en plus à un dossier et des accusés qui sont, comme on l'a dit, finalement assez secondaires.
Marc Ecker, il y a un risque justement de confusion, en tout cas de glissement du débat entre le procès de la liberté d'expression, qui est plus ou moins porté justement par Charlie et ses acteurs, et puis le procès du terrorisme tout court, et les cibles qui ont été visées en ce qui concerne Montrouge et l'hypercachère. On est clairement dans le cas d'un attentat d'une attaque antisémite.
Mais encore une fois, ce sera ni le procès de l'antisémitisme, ni le procès du terrorisme, ni le procès des personnes qui attaquent les individus qui défendent la liberté d'expression. Ce sera le procès d'individus qui sont dans le box des accusés. Après, si on veut employer ces expressions entre guillemets, procès du terrorisme, procès, ce sera fait en dehors. Ça va être tous les commentaires qu'il va y avoir autour. Et là, il peut y avoir... une vocation vraiment pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir expliquer l'antisémitisme fondamental de la mouvance djihadiste, l'opposition fondamentale de cette mouvance à la question du blasphème, et là, l'attaque contre Charlie Hebdo n'est pas sortie de nulle part. Il faut rappeler l'assassinat de Théo Van Gogh, les caricatures publiées d'abord par le journal danois, les menaces qu'il y avait eu contre les caricaturistes danois, et Charlie Hebdo qui a repris ces caricatures, et c'est après cette reprise que Charlie Hebdo a d'abord essuyé un incendie, ouais. Et puis ensuite, tout ça nous a conduit aux attentats de 2015. Les attaques des djihadistes contre des caricaturistes ou contre des personnes qui supposément pratiquent le blasphème continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on va pouvoir effectivement expliquer tout ça, redonner du sens et bien sûr expliquer que dans une société démocratique comme la société française, ces dérives ne sont pas acceptables. Donc en un sens, oui, il va y avoir ce procès, mais ça sera plus dans le commentaire et dans la discussion qui entourera le procès bien réel des accusés qui sont dans le box.
Pour revenir justement à ce temps judiciaire, l'ampleur, on peut le dire effectivement, de ce procès, sa forme, le fait qu'il va durer quand même effectivement très longtemps, sa dimension prétendument ou possiblement historique, certains objectent qu'elle tranche avec le profil des prévenus présents à la barre tout au moins, qui a priori relève plus du droit commun que du terrorisme stricto sensu.
C'est vrai que ça tranche un peu, mais quand on regarde dans le fond les procès qui ont été filmés jusqu'à présent, on n'avait pas forcément des commanditaires ou des personnalités qui vraiment étaient les principaux décideurs. Parfois, c'était aussi, même quand on a, d'ailleurs, je sais pas, il y a eu des procès en lien avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des procès en lien avec le génocide rwandais, le procès d'AZF a été filmé aussi, le procès du sang contaminé, et dans certains cas, c'était effectivement des décideurs, des personnalités importantes, dans d'autres moins, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une dimension importante pour des archivistes, pour des historiens, et que des témoins de premier plan, pour le coup, seront présents pour expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et au final, la justice quand même passera. Alors, il y aura un verdict. Ce ne sera pas, comme on l'a dit, les exécutants premiers et pas les commanditaires non plus qui seront dans le box. Mais enfin, à défaut, on a quand même un procès et on aura quand même un produit utile, intéressant et qui pourra servir plus tard aux générations futures et aux historiens.
Thierry Lévesque, certains, là je vais citer pour le coup maître Eric Nastat, l'avocat général l'avocat du gérant de l'hypercachère, qui parle de procès surdimensionné par rapport au profil des détenus. Est-ce que ça vous fait réagir?
Il n'a pas tout à fait tort, puisque effectivement aucun des 11 accusés présents, il faut le souligner, ne se réclame du djihadisme ni même de l'islamisme. Donc on n'a pas, si vous voulez, un accusé qui va exposer les fondements idéologiques de ce mouvement mondial. Bon, mais malgré tout, à travers les actes tels qu'ils vont être examinés, à travers leurs victimes, et puis à travers certains témoins, on aura par exemple Peter Sherriff, en principe, qui est un suspect qui, lui, n'est pas au procès, mais qui continue d'être poursuivi pour l'éventuelle préparation des attentats depuis le Yémen.
Qui a été arrêté il y a 2 ans.
À travers ce témoin-là, qui a été arrêté à Djibouti il y a 2 ans. Donc, à travers ce témoin-là, à travers, par exemple, Farid Ben Yetou, qui a été le mentor des Kouachid au début des années 2000, je pense que quand même, on va pouvoir dessiner une certaine genèse de toute cette séquence historique, et puis, finalement, faire une sorte d'arrêt sur image sur cet événement qui a été, quelque part, fondateur, et comme monsieur disait, a ouvert une période qui continue aujourd'hui.
Marc Ecker, pour conclure, si je parle du procès d'un système, vous dites effectivement, et vous avez raison, que c'est le procès de personnes physiques, le procès d'un système, celui d'une certaine porosité entre la délinquance classique et le terrorisme islamiste.
Ça, on l'a constaté effectivement dans le cas de Charlie Hebdo, on l'a constaté dans de nombreuses affaires. J'avais fait une étude en 2018 qui s'appelait 137 nuances de terrorisme, et il y avait plus de 50% des individus qui avaient effectivement un passé délinquant.
Et ce ne sera probablement pas effectivement le dernier procès la matière. On n'en dira pas davantage ce soir. En tout cas, merci beaucoup à nos invités. Marc Ecker d'être venu jusqu'à nous en studio. Je rappelle que vous êtes spécialiste du terrorisme à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci également à Thierry Lévesque, journaliste indépendant, qui couvre donc ce procès des attentats de janvier 2015 pour le site Les Jours. Thierry Lévesque également auteur, je le rappelle, de Et soudain, il ne riait plus, édité aux éditions Les Arènes. Merci à Eleanor Krenik également pour son aide à la préparation de cette émission. À Claude Battista à la technique. Restez avec nous tout de suite sur RFI. C'est le débat du jour avec Guillaume Nodin.